France Culture.
Comment qualifier notre relation avec les États-Unis? C'est une évidence. Désormais, depuis le début du second mandat de Donald Trump, les relations transatlantiques ont changé de nature. Dans les domaines de la défense ou de la diplomatie, dans le champ commercial ou dans le domaine du renseignement, sur la forme et en substance, l'administration américaine semble vouloir nous laisser seuls avec nous-mêmes, exigeant des comptes de cette relation de partenariat nouée au fil des décennies. Pour autant, les États-Unis sont-ils devenus des adversaires et des adversaires véritables? Pour en discuter, pour en débattre, même deux invités ce soir. Maud Kessard, bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes maître de conférence des universités, directrice du domaine Europe, espace transatlantique, Russie, à l'IRSEM. Et face à vous, Rim Momtaz, bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes géopolitologue et rédactrice en chef de la plateforme stratégique Europe chez Carnegie. Merci beaucoup à toutes les deux d'être présentes ce soir dans Question du Soir.
Je pense que les Américains, non seulement, doivent demeurer des alliés de la France, mais il faut sortir de la naïveté. En matière de géopolitique, nous n'avons pas d'amis, nous n'avons que des intérêts.
Comment voulez-vous que les États-Unis de Trump soient des alliés pour la France? Mais qui peut encore défendre ça? Tous les atlantistes, tous ceux qui pensaient que les États-Unis rimaient avec liberté et qu'ils allaient nous amener de la paix, vous voyez bien que tout cela est à terre.
Trump n'est plus simplement un ami, le peuple américain, pour le lien que nous connaissons, mais il n'est plus un allié. Et c'est pire, c'est un partenaire qui négocie avec notre adversaire.
Les voix successives de Jordan Bardella, Clémentine Autain, François Hollande. Alors Maud Kessard, commençons par le début. Les États-Unis sont-ils désormais des adversaires ou sont-ils encore nos alliés ?
Alors je dirais qu'ils sont les deux, parce que évidemment quand on parle d'alliance, on pense à alliance militaire, on pense à l'OTAN pour être parfaitement clair, et les États-Unis jusqu'à preuve du contraire sont toujours nos alliés dans l'OTAN. Nous avons besoin de cet allié, de ce partenaire, et à court terme, puisque notre objectif immédiat c'est le conflit en Ukraine, et aujourd'hui on voit bien avec les négociations encore de cette nuit que nous sommes aussi dans cette urgence-là. Donc ça c'est l'urgence de court terme. Le côté les États-Unis sont-ils un adversaire? Bien évidemment, quand on regarde également les derniers développements concernant la politique commerciale américaine, et comme certains aussi de nos amis américains de l'autre côté de l'Atlantique l'ont dit dans d'autres cercles que ceux de Washington, évidemment, un allié et un ami ne vous pousse pas dans la cour de récréation. Ce n'est pas le bully qui va vous amener à vous tordre le bras et à vous mettre à genoux à coups de droits de douane trop excessifs. Et je pense que les Canadiens partagent parfaitement cette opinion.
Le bully, c'est la personne qui martyrise dans la cour
de
récréation.
Absolument, c'est la personne qui martyrise. Et je pense qu'on assiste un petit peu à ce moment un peu qui n'est pas vraiment schizophrénique, mais qui nécessite effectivement cette juste appréciation des choses et cette distinction entre le fait d'être un allié au sens strict et dans le cadre d'une alliance militaire, et le fait d'être un compétiteur stratégique qui peut être, notamment dans le domaine commercial, particulièrement agressif. Ça n'est pas tout à fait nouveau, mais c'est la mesure des droits qui sont imposés par Donald Trump qui est importante et qui fait cette différence ou cette sidération parfois.
On va revenir bien sûr sur tous ces points, mais tout de même, Maud Kessard, sur la première partie de votre réponse, vous dites grosso modo, les États-Unis sont encore nos alliés parce qu'on a besoin d'eux, notamment militairement, notamment dans le cadre de l'OTAN. Est-ce qu'il suffit d'avoir besoin de quelqu'un pour qu'il soit notre allié?
Alors la question qui se pose dans le cadre de l'alliance, c'est deux choses. La question de la capacité militaire, et c'était mon point, et de l'assistance militaire, et c'était le message urgent. Mmh. Deuxième point, c'est que quand on a une alliance militaire comme l'OTAN, de la même manière que comme on est allié dans d'autres organisations multilatérales, eh bien on a un partage aussi de valeurs. Or aujourd'hui, sur ce point précis, je crois que J.D. Vance a apporté une clarification très claire de ce que pouvait être la politique de Trump vis-à-vis donc de ses alliés du continent européen, c'est-à-dire une distinction, une rupture, un schisme avec des valeurs de l'Europe occidentale. Et cela, en cela, effectivement, c'est un point sans doute de rupture forte et qui va nous amener à repenser ce que l'on entend par alliance et cette articulation entre les valeurs politiques et les capacités militaires.
Rim Momtaz, même question. Dans le fond, est-ce que les États-Unis sont encore un allié ou est-ce que la relation a à ce point évolué que nous sommes désormais adversaires ?
Les États-Unis sont encore des alliés de l'Union européenne, des Européens, Canadiens et donc de tous les alliés de l'Alliance Atlantique parce qu'ils sont encore dans le traité de l'Alliance Atlantique.
Très simple. Ça suffit pour vous.
Mais c'est ça la définition juridique de l'allié, en fait. Et donc aujourd'hui, tant qu'ils ne sont pas sortis de cette alliance, ils sont encore des alliés. Après, il y a clairement une grande évolution dans la posture de l'administration Trump aujourd'hui. Et donc, il faut vraiment faire la distinction entre les États-Unis, le peuple américain, et l'administration Trump. La différence avec l'administration Trump, c'est un, eux, donc les gens qui sont au pouvoir ne croient pas aux alliances. Ils pensent le monde en termes de zone d'influence. C'est une manière très 19e siècle de penser le monde. Donc ça, il faut l'intégrer. Et il faut aussi, évidemment, arriver à des conclusions de ça et tirer les bonnes conclusions et commencer à mettre en place des moyens et des capacités. Mais ça, ça va prendre 10, 15 ans. Il faut commencer à le faire du côté européen. Deuxièmement, je pense que en fait, les Européens ont été gâtés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale par les Américains qui ont été au pouvoir aux États-Unis parce que, qu'ils soient républicains ou démocrates, ils étaient quand même alignés sur les valeurs de la démocratie libérale. Aujourd'hui, on voit les gens qui sont au pouvoir aux États-Unis qui ne sont plus des adeptes de la démocratie libérale telle qu'on l'a entendue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ils sont des alliés, des gens d'extrême droite et de populistes en Europe. Ils ont une vraie alliance intellectuelle avec eux. Donc c'est juste un changement de la nature des relations transatlantiques, donc des acteurs qui sont liés, parce que si vous étiez d'extrême droite ou populiste pendant les années passées, vous ne pensiez pas que les États-Unis, donc que l'administration qui était au pouvoir, était votre allié. Aujourd'hui, c'est ça le changement qui est brutal. Il y a un troisième changement, et pour moi, c'est vraiment le changement qui marque le changement d'air qu'on est en train de vivre. C'est qu'aujourd'hui, les États-Unis donnent une priorité à un reset avec la Russie qui pourrait se passer aux dépens des Européens, et c'est un prix qu'ils sont prêts à payer. Et donc, sur l'Ukraine, ils ne sont pas les alliés des Européens. Ils peuvent même aussi être les adversaires des Européens sur la question de l'Ukraine. Et c'est là où la question est très grave, et elle peut avoir des conséquences très néfastes pour la prospérité et la sécurité des Européens.
Je vais vous faire réagir, Maud Kessar, mais je reviens un instant sur le début de votre réponse, Rim Momtaz. Vous avez inclus dans le cercle de cette alliance transatlantique le Canada. Et pourtant, je voudrais citer le Marc Rubio, qui affirme aujourd'hui la question d'une prise de contrôle du Canada ne sera pas discutée au G7. Est-ce que là aussi, ce rapport au Canada belliqueux, on le sent bien depuis le début du second mandat de Donald Trump, ce rapport même belliqueux avec une partie du territoire européen, je pense au Groenland. Est-ce que là encore une fois, on peut dire que malgré cette alliance atlantique, malgré l'OTAN, on peut dire que les États-Unis sont encore dans un rapport avec nous d'alliance, de compréhension en matière diplomatique?
Non, mais je pense que le cas du Canada est très particulier parce que là...
C'est parce que vous l'avez cité que je me permets de rebondir
là-dessus.
Oui,
non, mais vous avez raison. Et on est dans cette dualité. Ils sont encore des alliés d'après le traité et en même temps, ils veulent annexer un pays allié. C'est toute la problématique de ce que Trump est en train de raconter. Pour expliquer un peu pourquoi ils sont dans cette position belliqueuse sur le Canada et le Groenland, très rapidement, c'est une question de sécurisation des matières premières les plus importantes à leurs yeux pour réussir leur tournant économique par rapport à la Chine. Et je parle en particulier des minerais rares. C'est le fond du sujet.
Maud Kessar, une réaction
Alors, sur la question d'être dans l'alliance avec les Canadiens, si effectivement, comme Rim le rappelait, les États-Unis enfreignent... Que fait-on de l'article 5 de l'OTAN si les États-Unis ont des velléités expansionnistes sur le Canada et le Groenland? Là, on est dans une contradiction totale qui fait qu'on a une rupture de l'alliance. Donc, on comprend que nos alliés canadiens soient particulièrement inquiets. On comprend que ce projet peut être aussi contre-productif et il faut le rappeler, que l'administration Trump ne représente une partie des Américains. Il y a aussi l'autre Amérique, y compris dans le camp républicain, puisque des voix s'élèvent pour rappeler quand même que tout cela n'est pas dans le sens, même s'il y a des intérêts commerciaux. Mais moi, je suis pas sûre qu'il y a toujours eu des relations commerciales très fortes entre le Canada et les États-Unis qui ne nécessitent pas et qui ne justifient en aucun cas le fait que les États-Unis puissent avoir ces velléités expansionnistes. L'argument est fallacieux et particulièrement douteux. Et d'ailleurs, il a été pointé du doigt par des républicains. Je rappelais tout à l'heure, il y a certains débats sur cette question de l'argument fallacieux de la sécurité, au nom de la sécurité nationale. Non, l'argument, c'est pas celui-là, c'est celui que vous rappeliez, Rim, les sphères d'influence, au nord comme au sud, on recadre les États-Unis sur cette sphère occidentale et surtout, Trump s'inscrit dans une histoire qui est celle d'une Amérique expansionniste à laquelle il s'identifie et, en faisant un raccourci historique du 19e au 21e siècle. Il n'a pas vraiment de point de comparaison complet avec Theodore Roosevelt qui était le vrai président impérialiste de l'histoire américaine et qui n'a peut-être et qui n'avait certainement pas les mêmes valeurs sur le plan intérieur en particulier. Donc, contradiction supplémentaire de Trump sur ce point.
Est-ce que vous êtes d'accord, Maude Kessar, avec Rim Momtaz lorsqu'elle dit à l'instant que les Européens ont été gâtés, largement gâtés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? C'est aussi quelque chose qui entre peu à peu dans les esprits, hein, qui est effectivement évidemment défendu par Donald Trump, en particulier dans son rapport à Volodymyr Zelensky. Est-ce que les Européens sont des enfants gâtés des États-Unis?
Alors, c'est important de regarder cette histoire sur le temps long, puisque Rim rappelait depuis 1945, et effectivement dans l'histoire américaine, il y a toujours eu des moments de crise, de je t'aime moi non plus, dans la relation entre l'Europe et les États-Unis. Il y a un moment qui me paraît particulièrement intéressant, c'est la fin des années 60, début des années 70, où même certains démocrates, je rappelais hier que le sénateur Mansfield, qui était un sénateur démocrate, avait eu ce mot intéressant vis-à-vis des Européens, en disant que les Européens avaient été un petit peu feignants, qui s'étaient reposés sur l'idée d'un statu quo un petit peu long, et qu'ils ne s'étaient jamais véritablement intéressés à leur défense. On était en 70, à un moment intéressant, où l'Europe devenait finalement aussi un compétiteur commercial et économique pour les États-Unis. Et la conséquence, en fait, de cette rivalité avait abouti à la mesure prise par Nixon en 71, qui était donc la fin des euro-dollars. Et donc ce contexte-là, c'est pas pour faire une... Tout le monde aime rappeler un petit peu l'histoire sur le temps long, mais là, ça montre bien que effectivement, cette nécessité pour les Européens de s'intéresser davantage à leur défense, elle est d'autant plus nécessaire qu'il y a un savoir-faire européen. Et d'ailleurs, c'était ce que portait la parole démocrate à l'époque. Les Européens ont une capacité militaire, ils savent faire, ils l'ont montré aussi à nos côtés durant la Deuxième Guerre mondiale et après. Alors, pourquoi ne l'exploitent-ils pas? Voilà, donc c'était ce qui était sur la table. Maintenant, ça ne justifie pas les prises de position brutales de l'administration actuelle. Quand on veut bien traiter ses alliés, on utilise les codes diplomatiques. Et si on veut que les alliés nous traitent bien, il faut faire de la même manière. Parce que je trouve que ce mot « bien traiter les uns et les autres » est extrêmement intéressant dans le vocabulaire de Donald Trump.
Rim Momtaz, vous souhaitiez réagir?
Non, mais je vais commencer par la dernière. Trump est quelqu'un de mal poli. Il a fait toute sa vie, il a vécu toute sa vie comme un voyou et un malpoli. C'est connu aux États-Unis, ça fait partie de sa marque de fabrique. Donc lui, cette conception et ce concept de bien traiter ses alliés, ça n'existe pas.
Est-ce qu'il a même des alliés tout court?
Alors,
objectifs?
C'est exactement ce que j'allais dire. La réalité, c'est que dans sa vie lui-même, il n'a que des relations transactionnelles. Donc si les Européens n'ont pas compris entre 2016 et 2020 que cet homme était transactionnel, et que en fait il n'avait aucune référence dans l'alliance, c'est aussi de leur faute. Et quand je dis que les Européens ont été gâtés malgré les crises que vous avez évoquées, c'est une vérité. Il n'y a pas un ensemble géographique au monde entier, et je dis bien au monde entier et dans l'histoire, qui a bénéficié de ce que l'Europe a bénéficié des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Il faut comprendre que les États-Unis, évidemment, parce que c'était l'intérêt des États-Unis, c'était pas quelque chose qu'ils donnaient comme ça par charité de cœur, hein, mais Ils ont fait en sorte de...
En termes de protection, de défense,
non,
en termes budgétaires.
De fournir aux Européens leur sécurité, leur défense, leur stabilité et leur permettre donc d'investir autant qu'ils l'ont fait dans leur reconstruction, dans leur prospérité économique, dans leur système d'aide sociale, dans leur culture, etc. sans devoir faire ce que tous les autres pays du monde devaient faire, c'est-à-dire vivre dans le monde qui est une jungle, où il y a le rapport de force tous les jours et où les faibles se font manger par les plus forts. Je fais des raccourcis, mais en fait, c'est un peu l'état de fait qu'il y a, qui était dans cette relation depuis 80 ans. C'était aussi parce que les Américains le voulaient. Parce qu'à chaque fois que, par exemple, les Français et d'autres essayaient de dire bah, « maintenant, il faut faire un peu plus d'autonomie, il faut que les Européens puissent faire plus pour leur sécurité et leur défense », les Américains disaient « non, 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 vous n'avez pas du tout le droit de construire votre industrie de la défense ». Donc, évidemment, les Américains ne sont pas...
Parce que le contexte était celui de la guerre froide jusque dans les années 90. Donc,
même après les années 90, ils ont continué parce que c'était aussi des intérêts commerciaux et économiques. Donc, il faut reconnaître cet état de cause. Il faut aussi reconnaître que depuis Obama, c'est Obama qui commence à utiliser des mots qui sont très désobligeants envers les Européens. Il les appelle des free riders en anglais, c'est-à-dire des gens qui profitent, des profiteurs.
Qui profitent du système.
Et depuis Obama, les Européens n'ont pas voulu tirer les conclusions, même depuis la brutalité du premier mandat de Trump. Je rappelle que dès la première année du premier mandat de Trump, il a voulu se retirer de l'Alliance transatlantique, juste se retirer de l'OTAN. Et même en ayant vécu ça, et donc des sommets de l'OTAN qui étaient houleux, où tout le monde flippait, je suis désolée d'utiliser ce mot, les Européens n'ont pas tiré de conclusion. Ils ont dit non mais Trump c'est une anomalie de l'histoire américaine, on va revenir à nos petits oignons avec les gentils démocrates, alors que les démocrates ont fait d'aussi mauvais coups d'ailleurs aux Européens que les républicains et que Trump. On a vu avec Biden, AUKUS pour la France, l'Inflation Reduction Act pour toute l'Europe, et puis la manière de gérer l'Ukraine depuis 2 ans et demi, parce que le début ils ont très bien réussi à le gérer de la guerre, et depuis c'est une catastrophe stratégique.
Maud Kessar, vous avez levé la main pour réagir. Je voudrais ensuite qu'on avance notamment sur les sujets de défense et les sujets commerciaux. Alors vous avez le droit à une dernière réponse, j'allais dire.
Oui, non, simplement, je nuancerai quand même le propos sur la nécessité de, pour avoir un partenaire, puisque c'est le sujet du jour, donc je vais être bonne élève. Eh bien, c'est important pour avoir des partenaires stratégiques qu'ils aient une situation politique stable et qu'ils soient aussi stables sur leur continent. C'est ce parapluie, certes, que les États-Unis ont offert, mais... parce que finalement, c'est assez intéressant. Ensuite, puisque nous parlions d'alliance et d'article 5, la seule fois dans l'histoire où on a vraiment fait fonctionner l'article 5 de l'OTAN, c'est après le 11 septembre 2001, lorsque les États-Unis ont utilisé l'article 5, ce qui n'a pas été simple, parce que ce n'est pas un fonctionnement simple. Toutefois, les Européens ont répondu et se sont pliés donc à ce qu'ils avaient signé dans le cadre du traité de l'Atlantique Nord. Et donc, ils se sont engagés aux côtés des Américains au Moyen-Orient. Et ça, vous le savez.
En Afghanistan.
Oui, absolument. Et dernier point, à propos d'Obama. Alors moi, j'adore quand on reparle toujours d'Obama. Je rappelle que quand même, quand Obama a quitté, alors je vais pas dire le pouvoir, mais a terminé son deuxième mandat, il est parti d'abord en allant voir Madame Merkel en Allemagne, et il lui a dit qu'il lui passait le flambeau. Je pense pas aujourd'hui que la relation germano-américaine soit à ce point belle ou bonne pour qu'on puisse en arriver à avoir cette communauté de valeurs qui faisait qu'Obama voulait laisser un flambeau à Madame Merkel.
Non, mais on dit beaucoup que c'est le président qui s'est le premier tourné vers l'Indo-Pacifique, qui a commencé à régionaliser l'Europe et à diminuer les rapports entre les États-Unis et le vieux continent.
Alors, tout ça, c'est très intéressant parce que vous êtes tous plus jeunes que moi. Alors, c'est même plus l'historienne, c'est la mémoire qui va parler. Obama, bien sûr, c'est le pivot vers l'Asie, mais ça, c'est un élément de langage. Les États-Unis se construisent comme une puissance indo-pacifique depuis qu'ils sont une puissance maritime. Ils ont toujours été tournés vers l'Asie. Et quand ils ont voulu vraiment pivoter, c'est la fin de la guerre froide et c'est d'abord l'administration Clinton. Donc, j'en ai écrit des bouquins entiers. Obama, effectivement, Il va nous architecturer le pivot avec un certain nombre de ses conseillers qui étaient encore présents sous l'administration Biden, mais on n'en peut plus de pivoter vers l'Asie. Finalement, l'intérêt de Trump, c'est peut-être que lui va réussir à cette bascule stratégique en se débarrassant de certains dossiers embêtants, et d'ailleurs c'est son objectif, et le véritable, la véritable mise en œuvre de ce basculement total, peut-être que Trump va y arriver, et en cela, il aura rempli un de ses objectifs. Et ça sera très intéressant à observer. Voilà, mais disons que je balancerai un peu cette vision de l'administration Obama, mais j'ai bien noté le débat sur les free riders, ce qui est absolument juste.
Rimomtaz, alors très 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 court cette fois-ci, je vous écoute.
Oui, c'est l'américaine qui répond. Nous, ça nous fait toujours sourire de voir combien les Européens ont été charmés par Obama. La vérité, c'est qu'il n'avait pas beaucoup de respect pour les Européens en tant que partenaire stratégique. Et sur le pivot asiatique, je pense qu'aujourd'hui, Trump n'est pas en train de faire un pivot asiatique, mais plutôt un pivot sur les États-Unis. Et donc il recentre tout sur les États-Unis. Ça fait partie de la raison pour laquelle il veut prendre le Groenland et le Canada. Mais c'est fait en relation à la Chine. C'est pas la même chose qu'un pivot asiatique.
Je mets une pause un instant à ce débat. Je voudrais maintenant que l'on parle de défense et vous faire entendre la voix de Benjamin Hautecouverture. Il était l'invité de cette même émission. Cette semaine, c'était lundi.
Il y a 3 ans encore, après février 2022, on s'était tous réjouis du fait que l'OTAN était de retour. Oh là là, la Suède, la Finlande, l'augmentation des budgets. Et 3 ans plus tard, on nous explique tout à coup, en 2 semaines, que l'OTAN est mort ou va mourir dans les semaines qui suivent. Je trouve que ça n'a pas de sens. Quand on regarde les budgets de la dissuasion élargie américaine, y compris dans l'OTAN, ils sont absolument considérables et qui continuent aujourd'hui pour les 10 ans à venir. On parle de 750 milliards de dollars. Et il y a également dans le décret présidentiel américain du 27 janvier des projets de soutien à la constitution de boucliers antimissiles et donc de défense stratégique pour les alliés des États-Unis en Europe. Par conséquent, il me semble que c'est allé un peu vite que d'enterrer l'OTAN.
Lorsqu'on écoute Benjamin Hautecouverture, l'une des conclusions partielles possibles, c'est de se dire que de toute façon, nous resterons alliés des États-Unis parce que le système, l'architecture du droit international, l'architecture de l'OTAN, nous empêche de toute façon de réduire à néant cette relation qui a désormais des décennies et des décennies. On pourrait difficilement la détruire en quelques mois, en quelques années. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, Rim Momtaz, que dans le fond, l'OTAN nous tient aux États-Unis et pour longtemps ?
À moins d'être les États-Unis, parce que vous savez, il y a un proverbe qui se dit dans l'OTAN, c'est des alliés qui sont tous égaux, mais il y a un allié qui est plus égal que les autres, c'est les États-Unis. En fait, il a raison, il faut pas tout de suite enterrer l'OTAN, on n'y est pas encore, et c'est effectivement la colonne vertébrale de l'architecture de sécurité de l'Occident, pas seulement de l'Europe. Les États-Unis bénéficient énormément, et leur sécurité bénéficie énormément de l'OTAN et de la stabilité de la sécurité européenne. Par contre, ce qui a changé, c'est que effectivement, oui, à un moment, la Suède et la Finlande sont rentrées, et donc ça a revigoré l'OTAN. Mais en fait, depuis, il y a Trump qui est arrivé, qui a une vision différente de l'OTAN. Pour le moment, il ne se retire pas de l'OTAN, il ne retire pas le parapluie nucléaire. Mais le problème avec Trump, c'est qu'il est dans, il introduit une imprévisibilité et un doute. Et en anglais, on dit doubt is as bad as out. Le doute, c'est aussi mauvais que sortir de l'alliance. Et c'est là où il affaiblit déjà l'article 5, même sans dire que l'article 5 n'existe plus.
Maud Kessar, l'OTAN mort cérébrale ou l'OTAN encore bel et bien vivante ?
Alors, on n'est pas dans la mort cérébrale, on est plutôt dans le brainstorm.
Vous prenez l'expression présidentielle,
ouais, mais là, on a basculé dans un autre moment et je pense qu'il y a eu un électrochoc, celui de février que je rappelais.
Vous utilisez un autre mot présidentiel.
Oui, alors, on est plutôt dans le brainstorming particulièrement actif et pour être assez pragmatique, parce que je pense qu'il faut être quand même assez sérieux, assez pragmatique sur ces questions-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme équation possible ? La possibilité d'européaniser ce fameux pilier européen de l'OTAN, le rendre plus opérationnel, c'est la seule alternative. Il y a plusieurs scénarios possibles. Le premier, c'est d'être vassalisé par les États-Unis et d'avoir un allié plus, comme le rappelait Rim, ou bien effectivement de renforcer ce pilier européen pour peut-être une alliance alliance équilibrée, et surtout pour être crédible, et c'est là qu'on va se rejoindre, en tant qu'Européens, vis-à-vis aussi de ce partenaire difficile américain que nous avons aujourd'hui. J'aimerais quand même me rappeler sur le... toujours en étant très pratique, très pragmatique, parce que finalement, on parle aussi de défense et d'opérations militaires. Aujourd'hui, les infrastructures que l'on utilise au sein de l'OTAN, notamment en termes de renseignement, puisque ça a été vraiment une préoccupation pour là ces derniers jours, eh bien c'est des infrastructures qui sont américaines. Rim rappelait tout à l'heure aussi le fait que si on veut faire décoller certains F-35, il va falloir également que de manière très pratique, on est un go américain. Donc, moi, je ne pense pas qu'il faille être trop sur ça va prendre beaucoup de temps. Non, là, on est dans je pense que l'administration Trump est dans l'accélérationnisme. Et s'il y avait un effet positif, eh bien, effectivement, avec cet aiguillon fort, on est obligé de se serrer les coudes et de mettre tout le monde un petit peu sous tension pour pouvoir accélérer la mise en œuvre pragmatique de ce pilier européen de l'OTAN. Et c'est ça qui doit se jouer, parce que on a une urgence de court terme et peut-être de moyen terme pour être un partenaire plus crédible pour nos alliés américains.
Vous dites l'une et l'autre que l'OTAN est encore bel et bien vivante, je vous entends, mais dans le cas concret qui nous occupe présentement, je pense évidemment à l'Ukraine. On voit qu'aujourd'hui, les coopérations, l'Alliance vit extrêmement difficilement. Si on prend par exemple les questions de renseignement qui sortent évidemment du cadre strict de l'OTAN, mais tout de même, c'est la même sphère d'influence, la même sphère de compétence sur les questions de renseignement. On voit bien que les États-Unis ont pu pour un temps, au moins jusqu'à ce matin, l'échange d'informations, l'échange de renseignements. Là aussi, est-ce que ce n'est pas une rupture fondamentale, une rupture historique dans ces relations de défense et ces relations? Vous voulez toutes les deux répondre. Alors, Rim Momtaz pour commencer, puis Maud Kessar.
Il faut juste différencier. En fait, ce qui continue de bien fonctionner, c'est l'OTAN qui coordonne parmi les alliés l'aide et le soutien à l'Ukraine militaire. Ce qu'on a vu par rapport au soutien de renseignement des États-Unis à l'Ukraine, c'est pas dans le cadre de l'OTAN, c'est dans le cadre des Five Eyes. Donc c'est une, en fait, alliance. Enfin, c'est même un groupe, c'est même pas une alliance, mais c'est un groupe de partage de renseignements de 5 pays qui sont tous anglophones et qui, la vérité, repose tous à majorité sur les capacités des États-Unis. Je pense que c'est les États-Unis produisent 60 à 70% du renseignement des Five Eyes. Et ce qu'on a vu en Ukraine quand ils ont décidé subitement de l'éteindre, mais littéralement de juste l'éteindre,
ils ont coupé le courant pendant plusieurs jours.
C'était très brutal. C'est que même les Britanniques, les Canadiens, les Australiens, les Néo-Zélandais, donc les quatre autres, ne pouvaient plus partager quoi que ce soit avec les Ukrainiens. D'ailleurs, c'est pour ça que les Européens, d'ailleurs menés par la France, mais aussi, heureusement, avec le Royaume-Uni et des pays qui sont de plus en plus volontaires, comme les Danois, les Pays-Bas, les Suédois, les Finlandais, les Estoniens, qui eux aussi sont en train de faire un ajournamento qui est très important, parce qu'ils ont toujours été très atlantistes, très pro-américains. Aujourd'hui, ils intègrent que l'allié américain n'est plus ce qu'il était et qu'ils ont besoin de faire plus pour eux-mêmes. Et donc, avec ces pays, ils sont en train d'essayer de construire des structures parallèle pour essayer de combler le jour où les États-Unis vont dire en fait vous vous débrouillez en Ukraine, nous on va faire un cessez-le-feu et on vous laisse payer les pots cassés. C'est compliqué, ça va être un gros défi, mais c'est pas impossible. Il va juste falloir faire des choix qui sont un peu compliqués et un peu difficiles, mais c'est un investissement de court terme qui va donner des rendements au long terme pour la sécurité, l'autonomie, l'indépendance, la fiabilité de l'Europe.
Maud Kessar, sur cette même question, celle du renseignement.
Moi, je suis un petit peu inquiète sur deux points. Le premier point, c'est ces deux points, en fait, ce sont les contradictions qui sont à l'œuvre. Encore une fois, de manière très pragmatique, le renseignement, c'est des capacités technologiques dans le monde de 2025 et c'est aussi du renseignement humain. Donc, sur ces deux points, les États-Unis ont une avance considérable sur leurs autres partenaires stratégiques. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent être un atout et qu'ils ont plutôt besoin d'être un allié qu'un adversaire. Je colle toujours avec problématique.
Je vous remercie pour ça, d'ailleurs.
Merci beaucoup. Et deuxième point, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un torpillage en règle de l'appareil d'État américain, y compris dans l'ensemble des administrations, du Pentagone, département d'État, mais aussi les services de renseignement. Donc, comment on va pouvoir travailler avec donc des partenaires, y compris sur ces sujets, si on veut, on les considère comme fiables ou pas, et surtout, de manière encore toujours très pragmatique et très pratique, s'il n'y a plus de manpower, si le doge d'Elon Musk purge totalement les services de renseignement, avec qui allons-nous travailler et où vont aller ces agents du renseignement américain, pour qui vont-ils travailler ? Ça, c'est le renseignement humain. Sur la capacité technologique et le virage que les Américains ont très bien pris sur ces questions, et c'est pour ça qu'ils sont indispensables en Ukraine, comment vont-ils travailler avec finalement aussi donc nos partenaires stratégiques que sont les Britanniques et sur lesquels on doit aussi s'appuyer pour essayer de construire ce pilier européen de l'OTAN, ce qui les met dans une position très inconfortable, et j'aurais bien aimé avoir votre sentiment d'ailleurs sur cette question de le go-between britannique. Comment vont-ils réussir à résoudre cette contradiction, être à la fois dans les Five Eyes, dans l'OTAN, participer donc au pilier européen de l'OTAN et résoudre ce paradoxe finalement de la question du renseignement.
Alors je le dis aux auditeurs parce que vous êtes tourné vers Rimomtas, c'est évidemment pas moi que vous posez la question, vous avez pris ma place pour poser une excellente question à Rimomtas, donc Rimomtas, nous attendons votre sentiment sur ce sujet.
Mais il n'y a pas nécessairement de contradiction, puisque ça fait des décennies qu'ils le font sans problème. Le sujet, c'est ça va dépendre des choix des Américains, de comment ils vont, comment dire, quelles limites ils vont imposer à leurs partenaires des Five Eyes. Les Britanniques, je pense qu'il faut qu'on prenne en compte que leur monde est en train de s'effondrer d'une manière qui ne s'applique pas aux Français.
Pourquoi spécifiquement ?
Parce que les Britanniques ont toujours eu une relation effectivement très spéciale, très différente, très proche, avec des coopérations très proches à tous les niveaux de leur instrument de l'État. Leurs services de renseignement, par exemple, sont les plus proches des États-Unis. Ils ont un partage de l'information qui n'est inégalé avec tous les autres partenaires et tous les autres alliés. Et effectivement, même avant qu'ils ne sortent de l'UE, ils se concevaient comme le pays qui était le trait d'union entre les États-Unis et le continent européen. Ils continuent de se concevoir de cette manière, même si c'est compliqué. Aujourd'hui, par exemple, c'est une bonne question à poser aujourd'hui, parce que on arrive un peu à un moment de tension. D'un côté, il joue un rôle très important sur la construction de cette réponse de défense européenne, étant donné la posture américaine. Mais de l'autre, les États-Unis imposent des tarifs douaniers sur les Européens, mais sur tout le monde entier d'ailleurs, sur l'aluminium et l'acier. Et les Européens immédiatement imposent des mesures de rétorsion, et les Britanniques refusent de s'associer à ces mesures de rétorsion et disent « nous, on continue de négocier notre propre accord commercial avec les États-Unis ». Ça va approfondir déjà les problèmes de confiance qui existent entre les Européens et les Britanniques depuis le Brexit.
Justement, sur cette dimension commerciale de la relation transatlantique, l'actualité, ce sont évidemment les tarifs douaniers, le mot préféré dans le dictionnaire de Donald Trump.
Et en réponse après l'amour,
c'est un homme qui a le cœur sensible, et en réponse justement au droit de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium imposé par le président américain, l'Union européenne a dit s'apprêter à taxer jusqu'à 26 milliards d'euros de produits américains à partir du mois d'avril. Maud Kessar, on parle bien là de guerre commerciale. Alors, est-ce qu'on fait la guerre à nos alliés lorsqu'ils le sont encore, s'ils le sont encore ?
Alors, ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, on va devoir adopter des politiques de containment vis-à-vis des États-Unis, d'endiguement. C'est un terme qu'on a beaucoup utilisé pour qualifier en fait la politique des États-Unis vis-à-vis de la Chine. On parle d'endiguement quand on parle du militaire, mais aussi du commercial. Et aujourd'hui, finalement, la réponse de nos alliés canadiens et des Européens pour faire du containment, c'est la seule réponse à avoir finalement, avec une autre peut-être réponse ou piste qui est intéressante, c'est de savoir ce qu'on fait avec un compétiteur stratégique intéressant qui est la Chine et qui est important dans cette équation que l'on aime à appeler de guerre commerciale.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Quelle est l'alternative possible? L'arbre des choix?
Alors, l'arbre des choix, c'est plutôt que quelles sont les nouvelles règles du jeu, parce qu'on a parlé de nouvelles transformations du monde, d'alliance MAGA, de fin de l'ordre international libéral, de contournement de la norme. Qui contourne la norme dans l'ordre international mieux que sans doute la puissance chinoise, mais aujourd'hui la puissance américaine? Donc peut-être que l'Europe est taxée souvent d'être une puissance normative. Est-ce que ce sera à son bénéfice à ce jeu-là? Et est-ce que finalement ce bras de fer qui s'engage ne va pas directement impacter toute l'Amérique, celle de l'autre Amérique qui n'est pas celle de Trump, mais aussi des partisans MAGA qui vont finalement être peut-être les premiers touchés par le deuxième effet qui se coule, je dirais, de cette guerre commerciale. Et ça veut dire sans doute peut-être une contradiction avec l'inflation aux États-Unis, évidemment. Donc, bien sûr, il y a un autre effet, c'est celui de comment on investit aux États-Unis, qui investit, et est-ce que tout ce paysage-là n'est pas en train finalement de décourager aussi certains investisseurs et fait un petit peu quand même paniquer les marchés qui ont un petit peu dévissé.
Rim Omtaz, est-ce qu'on est en guerre commerciale effectivement depuis, presque depuis hier d'ailleurs?
Oui, enfin la guerre commerciale, ça fait partie de l'approche Trump, mais c'est pas nouveau non plus dans la relation européenne-américaine. Il y a eu beaucoup de phases de guerre commerciale d'une manière ou d'une autre. Ce qui est différent cette fois-ci, c'est que les Européens ont vraiment beaucoup d'atouts et beaucoup de leviers.
Rassurez-nous, alors lesquels?
Oui, parce que, par exemple, les géants de la tech américaine qui aujourd'hui clairement ont énormément de poids dans l'administration Trump. Les données européennes, les données numériques européennes sont ultra précieuses pour les géants de la tech américaine. Ce sont les données les plus précieuses d'ailleurs, parce que ça aide énormément leurs algorithmes. Si, c'est pour ça d'ailleurs que le vice-président américain J.D. Vance, il n'a en tête, il fait une obsession sur la régulation européenne autour des données, et qu'il veut absolument faire en sorte que cette régulation soit déchirée. Ça, c'est un vrai atout. Deuxièmement, l'épargne européenne est massivement investie aux États-Unis. Vous savez, le fonds de pension néerlandais a décidé de retirer ses investissements de trois grandes compagnies de tech américaines, Tesla, X et Meta. Et ça a eu un effet sur la valeur de ces compagnies. Et donc, il y a plein d'atouts qu'on peut utiliser.
On va peut-être pouvoir maintenant désormais donc orienter cette épargne large et massive pour des investissements productifs en Europe. Merci beaucoup à toutes les deux de cette discussion, de ce débat également. Maud Kessar, je rappelle que vous êtes maître de conférence des universités, directrice du domaine Europe, espace transatlantique, Russie à l'IRSEM. Et Rim Omtaz, vous êtes géopolitologue et rédactrice en chef de la plateforme stratégique Europe chez Carnegie. Merci beaucoup à toutes les deux de cette discussion.